Alors, ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est quelques éléments d'épistémologie des mathématiques et de leur enseignement. Donc, j'ai bien dit des propositions, ce ne sont pas des choses qu'on affirme comme ça, mais qu'on vous les propose plutôt comme un point de discussion pour tout à l'heure. Alors, on a décidé avec Sylvie de partager cet exposé en deux parties. Donc, dans une première partie, on va parler de l'épistémologie des mathématiques. Et après, on va aborder la question de l'épistémologie scolaire. Donc, on va regarder les mathématiques scolaires. Alors, quand on parle de l'épistémologie des mathématiques, on se pose des questions comme qu'est-ce qu'on fait vraiment quand on fait des mathématiques? Qu'est-ce qu'un objet mathématique? Qu'est-ce qu'un énoncé vrai? Quelles formes de raisonnement sont légitimes en mathématiques? Ou encore, quel est le rapport entre la pratique des mathématiques et la pratique des autres sciences? Alors, je ne vais pas ici prétendre de vouloir répondre à toutes ces questions. Je vais tout simplement, à travers mon discours, d'essayer de donner quelques éléments pour réfléchir sur ces questions-là. Alors, la première question qu'on se pose, c'est quoi les mathématiques? Alors, je pense que là-dessus, on va être plutôt d'accord que les mathématiques peuvent être considérées comme un domaine de connaissances abstraites qui sont construites à l'aide de raisonnements logiques sur des concepts, les nombres, les figures, des structures, des transformations. Mais c'est aussi un domaine de recherche qui vise à développer ces connaissances. Et en troisième lieu, on dit mathématiques aussi pour la discipline qui les enseigne. On dit souvent que les mathématiques se distinguent des autres sciences par leur rapport particulier au réel. Alors essayons de regarder ce rapport. Donc les mathématiques, on sait à partir de l'histoire des concepts mathématiques qu'il y a un ancrage de ces concepts dans le réel. Alors, effectivement, les mathématiques sont nées, de la volonté de résoudre des problèmes quotidiens, des problèmes pratiques. On peut prendre comme exemple l'histoire de l'évolution des nombres. Donc, les nombres ont été créés pour répondre à des questions d'ordre pratique, de comptage, de mesure des distances, etc. Et puis, donc, en retour, les mathématiques proposent des applications sur le réel. Mais bien évidemment, le travail mathématique ne s'arrête pas là du tout, parce qu'en fait, il y a l'esprit humain qui conçoit des outils pour pouvoir apporter des réponses à des problèmes pratiques. C'est-à-dire que les nombres, finalement, ce sont des créations de l'esprit humain, qui a commencé à travailler sur ces objets, qui a commencé à les perfectionner pour en améliorer l'utilisation. Donc on peut ici encore se rapporter à, par exemple, l'évolution des écritures des nombres ou alors le développement de techniques de calcul. Bien évidemment, donc l'esprit humain, les humains se posent ensuite des questions qui vont au-delà des problèmes quotidiens, des problèmes pratiques. Ils commencent à réfléchir sur des questions d'ordre « est-ce que je peux écrire un nombre aussi grand que je peux imaginer, par exemple ?» Et donc là, on va vraiment au-delà des problèmes pratiques. Et c'est à ce moment-là quand les mathématiciens ou les gens qui s'intéressaient à ces questions se posaient la question de quel système me permettrait d'écrire tous ces nombres-là. C'est là où naissent vraiment des problèmes qui sont véritablement des problèmes mathématiques et qui, après, ensuite, posent d'autres questions qui mènent au développement, par exemple, de méthodes. Quand on arrive à une conviction, par exemple, au niveau des nombres, à une propriété qu'on peut induire de l'observation, on se pose la question, mais est-ce que cette propriété est vraie? Donc cela emmène un autre développement, développer des méthodes de preuve. Donc, en gros, on voit que les mathématiques sont enracinées dans le monde concret, dans le monde réel, mais elles sont de nature purement intellectuelle. Les mathématiques sont basées sur des axiomes qui sont déclarés vrais, donc on ne fait plus, on ne fait pas de référence à l'expérience ni à l'observation, ou sur des postulats qui sont provisoirement admis. Et elles sont basées également sur des méthodes particulières, des démonstrations qui permettent de déterminer qu'un énoncé mathématique est valide. Et puis donc on a vu dans l'autre sens que malgré ce caractère purement formel intellectuel des mathématiques, les mathématiques fournissent des outils qui peuvent être appliqués dans d'autres sciences et dans d'autres domaines techniques. Alors maintenant, on peut se demander qu'est-ce que c'est que faire des mathématiques. Donc là, on se pose la même question que Didier a posée tout à l'heure par rapport à la physique. Alors on peut dire pour les mathématiques que d'une part, c'est le travail de mathématicien, c'est de poser et de se poser et de résoudre des problèmes, qu'ils soient extra ou intra-mathématiques. D'autre part, il y a aussi un travail de création d'objets, de développement de théories, d'organisation de savoir, etc. En tout cas, il y a un travail de recherche dans ces deux aspects, un travail de recherche qui combine à la fois des phases heuristiques qui font appel à l'intuition, au bricolage, à l'expérimentation, à l'induction, avec des phases de formulation de conjectures, de leur vérification, puis avec des phases de recherche de preuves, de démonstration. Alors on parle ici d'expérimentation. Donc on peut se poser la question, effectivement, est-ce qu'il y a l'expérimentation en mathématiques, est-ce qu'elle peut avoir de la place, justement, parce qu'on est en formation avec les sciences expérimentales. Donc revenons un petit peu sur l'expérimentation en sciences expérimentales. Donc là, je vais peut-être marcher un peu sur sur le terrain des physiciens. Je ne sais pas s'ils vont être d'accord. Je propose des choses que j'ai pu lire dans des documents, donc où j'ai trouvé justement une proposition de différenciation entre expérimentation et expérience. Ce que j'avoue que pour moi, c'était pas complètement clair. Alors, ce que j'ai trouvé, donc, pour l'expérimentation en sciences expérimentales, elle était définie comme un processus qui conduit à partir de l'émission de l'hypothèse à la réalisation d'une expérience et à l'analyse de ses résultats. Et vis-à-vis de l'expérimentation, l'expérience est considérée comme le produit de l'expérimentation, donc comme une face visible du processus d'expérimentation. Et donc, le schéma proposé était celui-là. Donc l'expérimentation est effectivement tout un processus de l'émission d'hypothèses aux interprétations des résultats, et puis on voit l'expérience faisant partie de ce processus. Alors si on regarde maintenant les mathématiques, donc en mathématiques, peut-on parler de l'expérimentation ? Alors, en discutant avec les collègues, on était plutôt pour parler d'une partie expérimentale ou d'une démarche expérimentale en mathématiques qui pourrait désigner une phase d'exploration d'un problème mathématique ou de phénomène mathématique. Par exemple, en traitant des cas particuliers d'une question qui, à premier abord, paraît trop difficile de la résoudre comme ça d'un coup. Donc on fait des expérimentations pour se faire une idée du problème, pour formuler des conjectures. Donc cette partie expérimentale permet de chercher des contre-exemples avant de se lancer dans la recherche d'une preuve. Elle permet également de comprendre en quoi des arguments utilisés dans un cas particulier puissent se généraliser ou non. Ça permet également de faire des conjectures sur des situations voisines. Et puis, donc, on a voulu l'enlever, mais finalement, on l'a gardé. Donc, dans certains cas, il paraît, notamment avec l'utilisation des ordinateurs, que cette partie expérimentale peut aussi être utilisée pour démontrer des théorèmes. Donc, le théorème des quatre couleurs en est un exemple. Et donc, si on se propose maintenant de comparer la place de l'expérimentation, le rôle de l'expérimentation en mathématiques et en sciences expérimentales, on arriverait à cette comparaison. En sciences expérimentales, l'expérimentation a donc pour rôle de vérifier une hypothèse qui serait formulée à partir de l'observation en faisant référence à un modèle, alors qu'en mathématiques, la partie expérimentale serait le début de la résolution d'un problème. C'est-à-dire, c'est cette partie-là qui permet d'arriver, d'aboutir à une conjecture, et cette conjecture appellera bien évidemment une preuve ou une démonstration pour pouvoir se prononcer sur la validité ou non de la conjecture formulée. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à Sylvie pour enchaîner sur l'aspect scolaire.
Oui, je vais peut-être avoir besoin de la souris. Alors, moi, j'ai fait un autre travail qui est d'aller chercher dans les programmes, alors nos fameux programmes français du BO et tout ça, mais bon, vous avez aussi des textes de référence dans vos pays respectifs, donc tout ça est à mettre en comparaison avec. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qui était... Enfin, j'ai pas regardé un petit peu, j'ai regardé ce qui était dit dans les programmes depuis la contre-réforme, donc la fin de la réforme des mathématiques modernes, sur la question de qu'est-ce que c'est faire des mathématiques à l'école, quelle est l'activité mathématique, comment est-ce qu'on doit faire, etc. Donc voilà, j'ai cherché ces choses-là. Alors ces choses-là, elles apparaissent dans les programmes, mais très souvent, c'est pour nous, c'est dans l'introduction des programmes, dans les... Oui, c'est ça, les parties un peu générales. Dans les programmes en eux-mêmes, ce qu'on appelle les programmes en France, il n'y a pas ces questions-là, il y a simplement des notions. Hein, on doit enseigner l'addition des vecteurs, des choses comme ça, hein, d'accord ? Ce qui pourrait être... Enfin, c'est un choix. Hein. J'appuie là. Ouais. Alors, si on prend juste les mathématiques modernes, donc le programme, par exemple, de 68, qui a été appliqué en 69, il n'y a aucune indication sur les problèmes, sur le fait qu'il faille faire des problèmes, des choses comme ça. Et les programmes sont essentiellement notionnels. On dit il faut faire ça et ça. D'ailleurs, c'est très court. Hein. Il y a une ou deux pages par classe. C'est très, très court. Alors, à partir de ce que j'appelle la contre-réforme, donc après les mathématiques modernes, donc mars 77 qu'on a appliqué en 78. Alors, à l'époque, vous voyez, il y avait quand même un certain délai entre la publication des programmes et leur application. Ce qui n'est plus le cas maintenant, mais enfin bon, on peut toujours... Hein ? Ouais, c'est ça pour... voilà. Alors, là, il y a un bémol qui est mis, hein, on sent bien le bémol, et on dit dans ces programmes, la théorie n'est pas un but en soi, mais un outil pour répondre à des questions que pose la vie. Alors, la vie, c'est technologie, physique, économie, hein, c'était... Bon, ok. De ce point de vue, l'analyse de situation et la résolution de problèmes jouent un rôle majeur. En particulier l'enseignement de la géométrie, bon, etc. Donc, vous voyez, là, 78, il y a déjà une allusion très forte à l'analyse de situation. Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, à vrai dire, je sais pas trop, puis je suis pas allée trop chercher ça. Et la résolution de problèmes joue un rôle majeur. Donc là, on affirme le côté résolution de problèmes. Donc ça, c'était 78, donc ça fait plus de 30 ans. Hein, qu'on dit ça juste pour pointer les choses. Alors, en 81, appliqué en 82, donc là, bah c'est le même programme, hein, vous voyez, mais là, cette fois-ci, il va être appliqué en classe de seconde. Donc, ce sont les mêmes programmes, mais qui, chaque année, changent de classe. Alors, donc, ils disent, à la base de tout bon apprentissage, il y a le contact avec une pratique sensorielle et concrète. Bon. La stimulation de l'activité personnelle de l'élève. L'élaboration de moyens d'investigation aussitôt applicables au monde qui l'entoure. Donc c'est encore la même idée du monde, des mathématiques dans le monde qui l'entoure. Pratiques sensorielles et concrètes des mathématiques. Bon. Et puis l'activité personnelle de l'élève. Ça aussi commence à sortir. Et on dit, la classe de mathématiques est dans son rôle essentiel un lieu de découverte, d'exploration de situations plus ou moins aisément maîtrisables. Et puis, cette dernière partie de la phrase, de réflexion sur des problèmes résolus. Ça, j'avoue que ça m'a... Parce qu'après, on va jamais le retrouver, mais sur des problèmes résolus. Ou alors des problèmes qu'il faut résoudre. Enfin bon, je... Voilà. Et puis, on dit une chose aussi très, très importante qui nous interpelle sur les conceptions de l'apprentissage. Hein. L'activité mathématique ne s'identifie pas au déroulement d'une suite bien ordonnée de théorèmes. Hein, donc, l'activité mathématique, ce n'est pas un enchaînement de théorèmes. Il importe que toute introduction d'une notion ou d'un théorème soit précédée de l'étude d'une situation assez riche pour en attester l'intérêt et qu'elle soit suivie immédiatement d'applications substantielles. D'accord ? Donc, situation assez riche, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est 82, donc c'est les premiers programmes de la contre-réforme. Alors, si on regarde un peu plus rapidement, donc là, on voit que les problèmes, bon, parce que je vous ai juste montré quelques parties des discours, mais si on regarde un peu tout, alors les problèmes, là, à ce moment-là, ils interviennent surtout en entraînement et en réinvestissement. Bien que, là, on dit qu'il faut des situations riches, mais c'est surtout l'idée de... ils doivent être nombreux, ça c'est écrit, je pense que c'est presque écrit comme ça dans le programme. Et on souligne l'importance du travail à la maison des élèves pour justement faire cet entraînement. Voilà. Alors, ensuite, 84, il y a une modification du programme de seconde, donc là on est 3 ans plus tard. Et dans les programmes, on trouve un bilan de ce qui a été fait en disant... malgré tout ce qu'on avait dit dans les programmes précédents, eh bien, il y a encore trop d'exposés théoriques, trop d'exposés synthétiques. Il y a un abus d'exercice mal défini, c'est-à-dire abordable mais coupé de tout contexte technique, quoi, des exercices de calcul ou des choses comme ça, ou trop difficile. Et on dit donc du coup il y a trop, ça va pas, etc. Donc il faut diversifier les activités. Mais ça, vous voyez, c'est juste une modification du programme de seconde, donc c'est un petit ajout qu'on a fait. Mais en tout cas, on dit bon, ça va pas encore, c'est pas ça, il faut changer. Alors nouveau programme 85, donc appliqué en 86 en 6e et puis ensuite dans les autres classes. Alors une autre idée, cette fois-ci nouvelle. Il convient de faire fonctionner à propos de nouvelles situations et autrement qu'en reprise ayant un caractère de révision, les notions et outils mathématiques antérieurement étudiés. Donc là, il me semble qu'il y a une autre idée, c'est il faut créer des nouvelles situations, sur des nouveaux objets mathématiques, il faut créer des situations qui posent problème ou etc. Voilà. Et il y a l'idée que on va les notions et outils mathématiques antérieurement étudiés. Donc on va se resservir de ce qui a été vu. Il convient de préciser à chaque étape quelles connaissances sont désormais en place et de mettre en œuvre des exercices de synthèse pour coordonner des acquisitions diverses. Donc ça, c'est l'idée qu'il faut rassembler des petits bouts, qu'il faut rassembler, créer des liens, etc. Ouais. Et puis, autre chose qui apparaît, donc j'ai dit en 85, c'est l'activité de chaque élève. Donc, il est essentiel que les connaissances prennent du sens pour l'élève à partir des questions qu'il se pose. Donc là, on vient à l'idée que il faut partir de questions, de problèmes. Et puis la célèbre phrase qui a été reprise après, l'activité de chaque élève doit être privilégiée sans délaisser l'objectif d'acquisition commune. Dès lors, seront choisies des situations créant un problème dont la solution fera intervenir des outils, c'est-à-dire des techniques ou des notions déjà acquises, afin d'aboutir à la découverte ou à l'assimilation de notions nouvelles. Lorsque celles-ci ont été maîtrisées, elles fourniront à leur tour de nouveaux outils qui permettront un cheminement vers une connaissance meilleure et différente. Donc là, c'est l'idée qui va être après sans arrêt reprise. Hein, c'est on va partir d'un problème pour lequel les élèves n'ont pas forcément les connaissances, toutes les connaissances possibles. On va découvrir la notion mathématique comme un outil qui va permettre de résoudre ce problème. Puis, on va étudier cette notion mathématique. Puis, cette notion mathématique redeviendra un outil pour résoudre de nouveaux problèmes, etc. Donc, on voit venir ce schéma-là, outil, objet, outil, enfin, on peut dire un peu comme ça. Voilà. Et ça, cette phrase, l'activité de chaque élève sera privilégiée, on va la retrouver et ça va certainement, enfin, ça va avoir des impacts. D'accord? Donc ça, je répète, c'est 85. Et depuis 85, cette phrase, enfin, ce paragraphe est repris dans chacun des programmes. Ça n'a plus changé après. Une autre idée, et pareil, ça va rester, cette chose-là, c'est qu'est-ce que c'est qu'une activité finalement? Les activités choisies. Alors, voyez, il y a un basculement, il me semble, de il faut mettre l'élève en activité, et puis après, il y a les activités. Hein, je crois qu'il y a ce terme qui a pris une importance énorme, enfin, en mathématiques. Hein, nous. Alors, par exemple, on dit les activités choisies doivent permettre un démarrage possible pour les élèves. Donc, il faut qu'il y ait des consignes simples et basées sur des connaissances acquises antérieurement. Créer rapidement une situation assez riche pour provoquer des conjectures. Rendre possible la mise en jeu des outils prévus. Donner des moyens de contrôle. Voilà, et notamment en prévoyant divers cheminements. Donc, vous voyez, dans les programmes, il y a une caractérisation, finalement, alors est-ce qu'on peut dire de l'activité mathématique, hein, mais il y a quand même des éléments qui ressortent là-dedans. Alors, à mettre en relation avec ce qu'a dit Yana sur est-ce qu'il y a de l'expérimentation, est-ce que, voilà, ces choses-là. On donne juste un paragraphe sur les synthèses, qu'il faut faire des synthèses. Bon, je vais peut-être passer... Et puis, mais regardez, c'est intéressant quand même, parce qu'elles disent... Il y a des synthèses qui doivent être faites portant sur les notions, mais aussi sur les méthodes de résolution des problèmes. Donc la synthèse, elle va au-delà des notions. Alors ça, c'était 85. Je vous ai dit, tout ça sera repris sans arrêt. Et donc en 85, tout ça revient. Un nouveau point qui apparaît en 95, c'est la formation du citoyen. Il faut que les maths participent à la formation du citoyen. Les liens avec l'école primaire, donc les liens intersiques. Donc là, j'ai pris les programmes de collège. Hein. Et les liens avec les autres disciplines, l'utilisation des TICE. Et là, on évoque la pratique d'une démarche scientifique. Hein, c'est le terme qui est employé, 95, démarche scientifique. Et voilà. Et on la caractérise, cette démarche scientifique. Alors là, ils disent activité mathématique, démarche. Bon. Alors, ils disent à travers la résolution de problèmes, donc ça revient, la modélisation de quelques situations et l'apprentissage progressif de la démonstration, les élèves peuvent prendre conscience petit à petit de ce qu'est une véritable activité mathématique. Alors, voilà, donc les étapes, identifier un problème, conjecturer un résultat, expérimenter sur des exemples, bâtir une argumentation, mettre en forme une solution et contrôler les résultats obtenus. Donc, il y a des étapes qui sont données. Est-ce que ces étapes, elles sont dans l'ordre ou pas dans l'ordre? Ça, ils le disent pas. Mais on montre les étapes d'une activité mathématique. 2005, il y a un paragraphe, cette fois-ci, qui s'appelle « Une place centrale pour la résolution de problèmes », mais on remet tout ce que je vous ai montré, hein. En 2005, il y a l'apparition des thèmes de convergence. Et aussi en 2005, on parle de la démarche d'investigation. C'est là que ça apparaît pour la première fois. Et je vous fais aussi remarquer que c'est en 2005, alors que nous sommes en 2010, et que là, on voit que tous les gens s'intéressent à la démarche d'investigation. Mais c'est dans les programmes depuis 2005. Bon. Voilà. En 2007 et 2008, toujours pareil, on garde tout ce qu'on avait. Et là, on rajoute le socle commun de compétences. Bon, ça, on va passer rapidement. Alors, juste pour refaire le résumé de tout ça. Alors, 78, on souligne l'aspect outil des mathématiques et on dit résolution de problèmes, rôle majeur de la résolution de problèmes. En 85, on y ajoute, il faut... faire découvrir les nouvelles notions en proposant des situations intéressantes. On rajoute privilégier l'activité de l'élève et on rajoute ce que je vous montrais, l'aspect outil, objet, outil. En 85, on définit l'activité mathématique et en 2005, la démarche d'investigation. Voilà. Donc, c'était pour avoir une vision un peu plus large. Alors, quelques conclusions là-dessus. Alors, il y a un discours qui est finalement très très stable depuis 30 ans, hein, et qui est repris à chaque nouveau programme. Ce qui est assez différent de la situation de l'école primaire, parce qu'à l'école primaire, j'avais fait ce travail aussi sur les problèmes. on voit qu'il y a eu le discours a plus changé, même si on a toujours affirmé la résolution de problèmes comme étant quelque chose de très important. Il y a eu des classifications de problèmes qui ont changé. Tout ça pour dire que le discours a plus changé à l'école primaire qu'au collège, par exemple. Et ça fait donc 30 ans qu'on dit la même chose, et ça fait finalement 30 ans qu'on a l'impression que les choses ne changent pas tant que ça, ou ont extrêmement du mal à changer. Alors, on peut certainement voir aussi que tout ce discours, il a été influencé par les théories de l'apprentissage et par des théories didactiques. On peut quand même y voir derrière quelques influences. Une autre marque que je voulais faire, c'était cette dérive de... Enfin, oui, moi je dirais dérive, mais... Enfin, disons, ce passage de l'activité des élèves à les activités, et ce qui a donné dans les manuels français, alors je ne sais pas si en Suisse vous êtes victime de ça aussi, mais ce qu'on appelle les activités d'introduction dans les manuels, hein, sur lesquelles il y aurait énormément de choses à dire, parce que en fait, elles sont bien en introduction parce qu'elles précèdent le cours, hein, dans le manuel, ça c'est clair que c'est de l'introduction. Maintenant, en quoi c'est des activités mathématiques et en quoi ça met l'élève en activité, je crois que là il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et c'est pour ça que je disais que les pratiques ne changent pas aussi vite que ça. Et donc tout ça me fait dire qu'il y a quand même beaucoup de difficultés de mise en œuvre dans les classes, notamment... Alors moi j'y vois deux points, mais ça on pourra en discuter, parce qu'on a du mal à trouver ces fameuses activités pertinentes qui permettent d'introduire un nouveau savoir. Et puis une chose qui moi me tient assez à cœur, c'est le lien qu'on peut faire entre on propose des activités aux élèves, mais quel lien ça a avec ce qui va être après institutionnalisé ou mis en synthèse, ou enfin voilà. Et ça, je pense que c'est un vrai problème dont il faut qu'on s'empare. Alors qu'est-ce que j'ai dans la tête en disant ça? C'est que dans le meilleur des cas, quand une activité est vraiment une activité, c'est-à-dire qu'elle permet de mettre l'élève en questionnement, de lui faire résoudre un problème, etc., dans ce cas favorable, et il n'y en a pas tant que ça, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a fait cette activité ? Hein, qu'est-ce qu'on en fait ? Et est-ce que il y a une hypothèse très forte derrière par cette activité, l'élève va apprendre, quoi. C'est-à-dire la lumière va jaillir de là. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. Donc là, à mon avis, il y a vraiment quelque chose à chercher. Je crois que j'ai fini. Après, donc on voulait revenir sur la démarche d'investigation et voir un peu comment ça s'articulait.
Oui. Donc voici quelques extraits en fait de ce qui appelait introduction commune à l'ensemble de disciplines scientifiques, parce que c'est là que la démarche d'investigation est présentée, qui se veut comme une démarche qui pourrait être commune aux sciences expérimentales et aux mathématiques. Donc voilà l'extrait de l'introduction en 2005. Donc on dit que cette démarche s'inscrit dans l'approche constructiviste et qu'elle présente des analogies entre son application aux sciences expérimentales et aux mathématiques. Donc en mathématiques, il s'agit de résoudre des problèmes, et puis ces analogies sont aussi formulation d'hypothèses explicatives et de conjectures. C'est ce qu'on a en commun. Et puis cette démarche se veut de tenir compte des spécificités qui sont liées aux objets d'études qui sont différents et aux méthodes de preuve qui sont différentes dans les sciences expérimentales et en mathématiques. Donc ensuite, cette démarche d'investigation, elle doit s'appuyer donc sur le questionnement des élèves sur le monde réel en sciences expérimentales. Et donc on précise que l'observation, l'expérimentation, l'action directe par les élèves doivent être privilégiées dans cette démarche dans la mesure du possible. En mathématiques, cette démarche d'investigation s'appuie sur la résolution de problèmes. Et donc enfin, ce document propose un canevas de la mise en place de cette démarche en 7 moments essentiels. Il précise bien que il faut pas concevoir ces sept moments de manière linéaire, parce que il peut y avoir des va-et-vient, articulations entre ces différents moments. Et que le rôle de l'expérience et le choix du problème doivent être pensés différemment selon la spécificité de chaque discipline. Alors ces sept moments essentiels sont le premier, choix d'une situation problème par le professeur, qui doit s'appuyer sur l'analyse des savoirs visés, des objectifs à atteindre, des acquis initiaux des élèves, des conceptions initiales des élèves. Le deuxième moment, c'est un moment d'appropriation du problème par l'élève, qui passe par une reformulation, qui permet également de faire émerger des éléments de solution qui suscitent le questionnement. Le troisième moment, c'est le moment de formulation de conjectures, d'hypothèses explicatives et de protocoles possibles. Donc les élèves doivent élaborer des expériences pour tester les hypothèses et les conjectures, communiquer des conjectures, des hypothèses et protocoles expérimentaux. Le quatrième moment, investigation ou résolution du problème conduite par les élèves. Donc, ce qui est dit que ce moment devrait se dérouler en groupe pour permettre aux élèves de débattre entre eux. Il vise la description ou la réalisation de l'expérience, d'exploiter des méthodes et résultats et de rechercher d'éléments de justification et de preuves. En cinquième moment, intervient l'échange argumenté autour des propositions élaborées, donc où les élèves peuvent confronter les différentes propositions et débattre de leur validité. Sixième moment, acquisition et structuration des connaissances. Donc là, il y a la mise en évidence, à l'aide de l'enseignant, de nouveaux éléments de savoir qui sont censés émerger à travers cette activité. Et en septième phase, opérationnalisation des connaissances, qui prend appui sur des exercices qui permettent d'automatiser certaines procédures, ou alors proposition de nouveaux problèmes de réinvestissement, ou encore une phase d'évaluation.
Juste deux mots là-dessus sur la démarche d'investigation. Vous voyez, enfin, bon, on pourra discuter puisque on est en plein. Certains d'entre vous ont dit je pratique la démarche d'investigation, etc. Mais tout de même, quand on lit ça, on voit bien que c'est quelque chose qui se veut unificateur, hein, aux sciences expérimentales et aux mathématiques. Bon, donc ça c'est prouvé parce que c'est le document, par exemple, s'appelle Introduction à toutes les disciplines scientifiques. Mais on voit bien quand même que les gens qui ont écrit ça sont sans arrêt tiraillés par le fait de est-ce que c'est de l'investigation, est-ce que c'est de la résolution de problèmes. Donc à chaque fois on a les deux termes, hein, investigation ou résolution de problèmes, etc. Donc là, moi, j'y vois un tiraillement un peu épistémologique qui est est-ce qu'on peut écraser les deux disciplines.
C'est une étape dans la démarche.
Oui. Mais à plein d'autres moments, tu vois, résolution de problème, même juste avant. Voilà. Donc là, on sent bien qu'il y a quelque chose, il y a une tension. Et puis, démarche d'investigation, on sent bien aussi que dans tout ce qui est dit, là, dans ce canevas, il y a certains mélanges entre de la gestion de classe, de l'épistémologie. Enfin, bon, il faudrait étudier ça précisément, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses et que, par exemple, acquisition et structuration de connaissances, opérationnalisation des connaissances, est-ce que c'est vraiment dans la démarche expérimentale, la démarche d'investigation, enfin, voilà. Donc, on sent bien cette volonté, mais on n'est peut-être pas encore tout à fait au top de ce qu'on pourrait proposer, ou bien est-ce qu'on peut proposer la même chose en maths ou en sciences expérimentales. Ça, c'est une autre question épistémologique. Comment ? Et en technologie, oui. Oui, tout à fait. Ce qui est encore tout à fait différent. Oui, oui. Donc là, je pense qu'il faut peut-être, c'est sûr, il faut essayer de voir si c'est facile à mettre en place et tout, mais peut-être aussi qu'il faut avoir une réflexion épistémologique avant, en se disant attention, qu'est-ce qu'on est en train de faire et où on va.